Tout de suite, le nouveau rendez-vous du lundi. Alors, quelques pistes pour les programmes à venir. Les invités pour cette semaine 100% énervés. Une bande-annonce qui s'ouvre sur Laurel et Hardy.
Quelle merveilleuse matinée. Ouvre la radio qui nous a un peu de musique.
Bonjour, je m'appelle François, j'ai 23 ans.
Bon, quoi de neuf, chouchou?
Je possède une excellente voix de chanteur et je voudrais me lancer dans un groupe de rock ici à Paris.
Hey, la mort!
Dans notre groupe de rock, l'idée serait de passer d'un style à l'autre.
J'ai envie de montrer que le théâtre interroge, le théâtre participe.
Ça plane pour moi.
Croyez peut-être que vous êtes drôle.
Vous ne comprenez pas la plaisanterie?
Non, il n'est pas du tout au niveau. Non, ça se dégrade et plus va le temps, plus ça se dégrade.
Dans notre tête, on a un minuteur. À l'école, on nous apprend qu'on doit passer 3/4 d'heure de temps avec une personne pour les soins de nursing. On appelle ça une pièce de théâtre.
Parce que ça ne correspond pas à la réalité.
Exactement.
Je soutiens totalement les citoyens honnêtes qui protestent contre un président qui gouverne contre son peuple.
Tu commences à quelle heure?
On réveille. Alcool, médoc, coke. Tous les jours.
C'est dur, mais il faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas, qui se rendent compte que la réalité n'est pas là à hauteur du prospectus, et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent. Pas une seule.
Allez, retour en Syrie, c'est demain avec le film Les Exfiltrés d'Emmanuel Hamon. Demain aussi du théâtre citoyen avec Jean-Marc Dumonté et Simon Bacouche. Et puis gros plan sur la situation des EHPAD. Plastique Bertrand, le retour, ce sera mercredi. Mais tout de suite, du live avec les Négresses Vertes et du cinéma avec nos invités Fabienne Godet et Régis Rib. Générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Nouveau.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est le NRV, le retour, le NRV du soir. Nous sommes lundi 4 mars et très heureux de vous retrouver, surtout qu'on a deux nouveaux rendez-vous dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, et puis à l'antenne sur France Inter, c'est 22h minuit comme tout le monde. Ce soir, une émission collector avec les Négresses Vertes, le retour. 3 CD, un DVD, un livre, c'est la totale? Non, c'est pas la mer à boire. Le groupe revient sur les années 87-93, ils sont en tournée et ça passe ce soir au studio 621 en live pour 3 titres. À leur côté, Fabienne Godet et Régis Rib, la première est réalisatrice, elle signe nos vies formidables. Film portrait de groupe au bord du documentaire dans un centre de désintoxication. Le second est thérapeute, diplômé en addictologie et ils jouent leur propre rôle. On va les retrouver dans quelques instants, ils vont nous rejoindre. Dans le NRV de la Suite ce soir, direction l'Italie, parce que ça ne va pas fort entre la France de Macron et l'Italie de Salvini. L'Italie a-t-elle une botte secrète, Christophe Boursier?
Elle est très bonne, elle est très bonne, Laurent. Je sais qu'elle a été longuement élaborée comme en laboratoire. D'ailleurs, l'Italie est-elle un populiste ou un laboratoire? C'est aussi la question qu'on est en droit de se poser, Laurent. En effet, avec vous et moi, bien sûr, mais aussi une historienne italienne, Ludmila Accone, un journaliste italien, correspondant de nombreux médias, dont Radio Radicale, Alberto Toscano, Philippe Ridé, qui est journaliste au Monde, et puis François Devoyer, chef d'entreprise et partisan de Matteo Salvini.
On vous retrouve et tout à l'heure en deuxième partie. Le NRV, on y va.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on y va tout de suite en live, Marion Guilbeault, avec nos invités, les Négresses Vertes.
Oui,
3,
oui, Laurent, avec ce groupe mythique de la fin des années 80, mythique parce qu'ils ont été les premiers à incarner un métissage triomphant, et ça 10 ans avant la France black, blanc, beurre. Les Négresses Vertes, une bande de musiciens parisiens, gouailleurs, sapés comme des Milord, issus du punk alternatif et du cirque Zingaro, qui ont fait danser au-delà des frontières au son de leur musette rock débridée, libertaire. Musique festive, bien sûr, mais aussi poésie noire et personnages truculents. Ils ont été et ils restent le groupe le plus exotiquement français. Depuis 2 ans, ils ont repris les routes de l'Hexagone pour célébrer l'anniversaire de leur premier album Mla et prendre le pouls de cette France d'après le périphérique. Qu'est-ce qui a changé? La France a-t-elle toujours envie de faire la fiesta? Réponse dans quelques minutes, juste après cette hymne. C'est à vous.
Voilà l'été,
oui.
Voilà l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud, il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les dieux sont ravis. Enfin l'été,
enfin l'été,
enfin l'été,
enfin l'été,
enfin l'été, oui. Toujours l'été, c'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas sourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui se font chier.
Bon, ça.
Dans le midi.
Ah, les cons.
Tous ces torches-culs qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, la mer, quelle saloperie. Et sur les routes de danger, ça vous tue. Vivant l'automne, je me sens tout aigri. Toujours l'été,
toujours l'été,
toujours l'été,
toujours l'été,
toujours l'été,
toujours l'été,
toujours l'été, toujours l'été, oui. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir
le plaisir de la vie.
Voilà l'été, j'ai peur sur le soleil. Les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les vieux sont ravis.
Voilà l'été,
enfin l'été,
toujours l'été,
encore l'été, oui.
Voilà l'été,
enfin l'été,
toujours l'été,
encore l'été, oui.
Merci à vous. Moi aussi j'attendais ça.
Les Négresses Vertes qui sont trois aujourd'hui dans le nouveau rendez-vous.
Mais il y en a que deux qui parlent, c'est ça?
Stéphane Mélineau.
Celui qui était à l'accordéon, non,
chante
pas.
Et guitare, Polo qui chante et Cisco, il joue d'accordéon et c'est déjà pas mal. Voilà, ils sont là. C'est cette version acoustique comme ça à trois. Enfin, surtout la version acoustique. Moi, ça me rappelle vos tout débuts quand vous jouiez n'importe où à Paris, dans les bars, dans les appartements,
dans le métro,
les squats,
dans le métro, dans la file d'attente des gens qui allaient voir d'autres groupes que nous. On se mettait dans leur file d'attente et on jouait. Comme ça, on piquait des clients.
Non. Ouais.
Vous aviez une station préférée dans le métro?
C'était laquelle, voilà, c'était la ligne 5, notre ligne prédilection, parce qu'elle passait par Ourcq. Ouais. Et on était tous dans le quartier de l'Ourcq. Donc voilà, c'était la ligne 5.
Alors, ça fait plaisir de retrouver ce son des années 80, dans quelques 7. Jours. Donc, ouais, 87, 88, dans quelques jours, on va recevoir une autre partie de ces années-là. Plastique Bertrand qui fait la tournée des tournée Star 80. On vous a, j'imagine, jamais proposé d'intégrer la tournée aussi, quand même.
Non, 80, non. On a
fait un truc top 50.
J'ai fait top 50, ah ouais, on m'a proposé poser la tournée top 50 avec le producteur avec Pierre-Alexandre Vertadier qui a monté cette tournée, qui est aujourd'hui le producteur avec lequel on travaille aussi. Et c'était une tournée, ouais, les Négresses, on est rentré au top 50 sans s'y attendre.
Bah c'était quand même énorme.
J'ai vu à l'occasion de cette tournée que vraiment on n'avait pas conscience, nous, que nos chansons étaient rentrées dans la vie des gens, quoi. Nous, on est issus, on est à moitié copains, on est sortis de... vraiment, les chansons, on faisait comme on voulait, quoi. On n'a pas fait de concession à aucun moment à qui que ce soit. Et du coup, on a vu que nos chansons sont devenues populaires. En tout cas, elles sont beaucoup plus connues que nous-mêmes, nous le sommes.
Fabienne Godet, je vous présente Fabienne Godet qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabienne Godet? Vous avez eu du retard, les taxis ne marchaient pas, les trains étaient en panne.
Le taxi a été commandé trop tard.
Régis Ribes, à vos côtés, qui est un acteur, qui est thérapeute de son métier, mais qui joue son propre rôle dans votre film Les Nos Vies Formidables, on va en parler dans quelques instants. Les Négresses Vertes, ça vous rappelle des souvenirs?
Je trouve ça incroyable parce que j'ai mis sur un film qui s'appelle La Tentation de l'Innocence, j'avais mis la valse en chanson générique. Et il y avait à l'époque mais donc je me demande si c'était pas vous que j'avais rencontré, qui était avec la comédienne et qui découvrait en fait que la chanson était sur le film. Et donc je sais pas avec qui la production avait négocié, mais en tout cas le chanteur, hein, et c'était, et je suis fatiguée là, mais vous avez pas été à un moment donné dans votre vie avec une actrice?
Moi non.
Non.
Ah, mais ils étaient neuf, hein, ils étaient très nombreux.
Enquête. Là, bah, c'était avec enquête. Le chanteur.
Ah ben voilà.
On dit qu'on parlait pas de la vie privée, donc.
Ouais. Oh, nous on aime bien faire ça.
Ah, si. Enfin non, je trouve ça étonnant d'arriver.
Ah oui, et de retomber et sur un groupe qui a fait la musique d'un de vos premiers films. Régis Rib, ça vous dit quelque chose?
Ah oui, oui, les négresses vertes, c'était toutes les folies des années. Oui, c'était 85 à peu près, c'était.
Non, 85, deux ans plus tard. Ouais, deux ans, trois ans plus tard.
Je vous avais rencontré un soir. J'étais avec Farid Chopel.
Ah bah ouais, Farid, c'était un bon copain.
Et on avait fini la nuit assez tard, plutôt assez tôt le matin.
Ça, on peut avoir confiance. Négresse verte, vous pensez que le nom pourrait sortir aujourd'hui?
Je sais pas. Je crois que
ça serait moins simple.
Ouais. Il vient d'où ce nom, justement, pour nos auditeurs les plus jeunes?
Il vient de là. Il vient de la chanson, la danse des négresses vertes.
La danse des négresses vertes. Ouais. Moi, j'avais entendu dire à l'époque, c'était une anecdote, que c'était des bûcherons jurassiens qui nous avaient appelé comme
ça. Légende,
ça. C'est la légende urbaine, ça.
C'est la légende.
Donc, il vient du titre, la danse des négresses vertes. D'accord.
Fabienne Gaudet, Nos vies formidables, ça va sortir en salle mercredi prochain. Un film pas comme les autres, au bord du documentaire, sur un centre de désintoxication. Un portrait de groupe, portrait aussi d'une femme, Margot, qui va trouver le temps pour libérer sa parole et mettre des mots sur ce qu'elle a subi et sur ce qu'elle a fait subir aux autres. Au départ, le sujet appelé le documentaire, ça devait être sur un ami, c'est ça? Ou sur une personne que vous connaissiez?
Oui, au départ, c'était le frère d'une amie qui, suite à... « Ne me libérez pas, je m'en charge », qui était un documentaire sur
Michel Vaujour.
Voilà. Il avait envie, en fait, que je prenne son témoignage et que je fasse un film un peu comme ça, sur lui. Et en fait, il s'est suicidé 15 jours après notre rencontre. Et du coup, moi, je le connaissais pas tellement, mais c'est une rencontre qui m'a marquée. Et j'ai commencé, en fait, à lire sur le sujet, beaucoup de témoignages. Et à partir de là, je pouvais plus faire de documentaire. Mais du coup, je suis allée aux Narcotiques Anonymes, dans la communauté qu'avait cofondée Régis. Et voilà, et je suis partie en fait sur l'idée de à la fois de faire un gros travail de documentation puisque je connaissais pas le milieu d'une certaine manière, et de réunions de Narcotiques Anonymes en immersion dans cette communauté à Aubervilliers, j'ai dessiné à partir de témoignages réels des personnages fictifs.
Régis Rib, vous êtes acteur dans le film, c'est votre premier rôle au cinéma, ça y est. Alors oui. Que vous êtes psychothérapeute, par ailleurs.
Oui, oui, je suis psychothérapeute.
Comment vous êtes retrouvé dans le film? C'était prévu dès le départ?
En fait, j'ai rencontré Fabienne par l'entremise d'un de mes anciens patients qu'elle avait croisé au Narcotique Anonyme, qui lui a dit « ça serait intéressant que tu rencontres Régis, puisqu'il a la double, comme dit Fabienne, la double nationalité de ex-toxicomane et nouveau thérapeute, en fait. » Donc je me suis recyclé, je suis passé de l'ombre à la lumière en décidant un jour...
Ben vous êtes alors le meilleur attaché de presse du film, puisque c'est exactement le propos du film, de passer de l'ombre à la lumière avec la libération de la parole de Margot. Oui. Pour faire plus amplement connaissance les uns et les autres, on vous a demandé à chacun des sons qui vous définissent ou qui vous ont marqué. Voici le premier, c'est un générique. On l'aura tous reconnu, en tout cas les plus vieux d'entre nous.
Oui, c'est sûr.
C'est vrai que là, on voit qu'on est tous de la même génération. Ouais. John Barry pour Amicalement Vôtre. Qui est-ce qui a choisi ce son? Qu'est-ce que ça représente
c'est
pour vous?
Stéphane Ménino.
Il faut s'avancer vers le micro.
Oui, j'ai dit, ce son-là, j'aime bien. En plus, j'avais appris à jouer à la guitare tout de suite. Cette suite d'accords, elle est bien mineure, comme ça, moi j'aime beaucoup. Après, j'ai découvert par la suite que c'était John Barry et son parcours et d'autres disques. Ouais. Et voilà, même qu'il était carrément, il était le premier mari aussi de Jane Birkin. Enfin...
Avec qui vous avez travaillé aussi.
Avec qui vous avez
avec
travaillé.
Avec travaillé, bah oui, c'est vrai. En 96, ouais. On avait fait la gadoue avec elle.
Avec elle, oui. Dans le téléfilm, enfin dans la série, vous identifiez à qui? Lord Brett Sinclair ou à l'autre?
Moi, vu ma taille, j'étais plutôt Tony Curtis, tu vois.
D'accord. Et pour la mentalité aussi?
Ouais. Ouais. Non, j'aime bien Brett Sinclair, j'aime bien le flag britannique, moi j'adore
surtout que,
les Anglais.
Oui, les Anglais, c'est eux qui vous ont en fait véritablement découvert. C'est grâce aux Anglais que tout a démarré pour les Négresses Vertes.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est en partie grâce à eux, mais aussi grâce à un producteur qu'on a eu à l'époque, avec qu'on avait signé dans une production, un producteur indépendant.
Off the track.
Peter Murray, qui a eu l'idée, vu qu'en France, ça accrochait pas du tout, que les préventes.
Rien ne marchait, quoi.
Non, les préventes, c'était 400 disques.
C'était à l'époque, c'était rien, 400 disques, Laurent.
Aujourd'hui, c'est phénoménal.
Ce serait deux.
Aujourd'hui, ouais, c'est disque d'or.
Oui, presque.
C'est vrai que ça a bien changé.
À l'époque, il dit, voilà, moi j'ai l'idée, je vous ai envoyé en Angleterre, on va faire les pubs. Et puis j'ai surtout rencontré un jeune gars qui s'appelle William Orbit, qui était à l'époque comme nous, quoi, qui est notre génération aussi, qui commençait à faire des remixes, à faire du son avec une boîte qui s'appelait Rhythm King. Et il a eu l'idée de faire le remix de Zobby Lamouche, quoi. La première fois qu'on mélangeait la musique électro avec... des guitares rumba, enfin la poésie Nos Futurs d'Elno et tout. Et ça nous a propulsé en Angleterre avant même d'avoir fait un concert en France. On avait joué plein de fois à Londres. C'est très snob et on adore.
La vie à Londres, c'était bien ?
Ouais, c'était royal.
Qu'est-ce que vous faisiez ? Qui avez-vous rencontré à ce moment-là, sur la scène ?
Londres.
Les Specials ont été.
Ah ouais, quand
ouais, il y avait aussi, comment ils s'appelaient, les Pogs.
Les Pogs, ah bah les oui, Clash, les Pogs, les Specials.
Et aussi, merde, comment ils s'appellent ce groupe-là, Our House.
Madness.
Ouais.
Ah, du côté du ska, donc.
Ouais, ils venaient nous voir à nos concerts, on s'est. Et puis bon, c'est toute l'époque aussi, c'est l'époque où on a rencontré, après on a rencontré des gens comme OEB, Clive Martin, des gens avec qui on a travaillé par la suite
par
aussi.
Par la suite aussi. Mmh. Un autre son de générique, c'est aussi de la télévision, je crois, pour vous, Fabienne Godet. Un peu moins repéré comme générique, Fabienne Godet, qu'est-ce qu'on entend ?
Kung Fu. La série Kung Fu avec David Carradine.
J'avais complètement oublié le générique. Ouais, ouais. Je me souviens de lui, du scarabée, tout ça. Ouais.
Bah, je trouve qu'on la reconnaît pas trop l'émission. Enfin, ce que j'ai en mémoire en fait, parce que je l'ai racheté la série en fait quand Tarantino a sorti Kill Bill, il a ressorti plein de films d'arts martiaux et je me suis jetée sur la série avec la déception. J'avais acheté en VO et moi quand je l'écoutais quand j'avais 13-14 ans, j'écoutais en VF et du coup j'ai pas eu la même sensation auditive en fait. Mais ouais, j'adorais David Carradine. Je l'imitais.
Vous l'imitiez, c'est-à-dire ?
J'avais acheté la veste, j'avais acheté le sac. Et en cours, en fait, je passais mon temps comme ça.
En fermant les yeux, oui, en plissant les yeux. Pour se donner un air bien mystérieux. De la musique pour vous, les négresses vertes.
Porte Maria ! Con mi pena si alegría.
Identification de ce son.
C'est José Reyes qui chante. C'est un chanteur super, José Reyes. C'est le père des Gypsy Kings en fait. Il était dans le groupe de Manitas de Plata à l'époque. Moi j'étais tout gamin. Ça, c'est des chanteurs incroyables. Ils sont pas appris à chanter. C'est des rockers en flamenco quoi.
Vous avez appris à chanter vous ?
Non.
Non plus.
On chante, on fait des concerts, c'est là qu'on apprend en fait. On a appris à jouer en faisant des concerts, nous d'ailleurs. Ça nous est tombé dessus comme ça. C'est là qu'on Et on s'est dit, il va falloir qu'on bosse un peu là.
Les négresses vertes, ils jouent mieux maintenant qu'ils jouaient à l'époque ?
C'est autre chose.
Moi, je pense qu'on joue un peu mieux maintenant. On a plus de recul sur ce qu'on fait aussi. Donc ça change un peu la donnée quand même. Mais puis de toute façon, le musicien, plus il joue, plus longtemps il joue, mieux il joue, je pense, hein, de toute manière. Parce qu'on a exploré d'autres trucs depuis.
Qu'est-ce que vous avez exploré depuis ?
Depuis, on a exploré ce qui est arrivé. C'est-à-dire que notre berceau, c'est le rock.
Ouais.
C'est un peu le rock quand même. Et la chanson française. Et puis après, tout est arrivé, le rap est arrivé. Et puis après, on a découvert la soul, le funk, la soul, tous ces trucs-là. Un peu plus tard, quoi, vers l'adolescence, vers l'âge de 20 ans. Donc voilà, c'était ça. Et puis après, on a exploré. Moi, je sais que j'avais aucune connaissance de la musique tzigane, par exemple. Et j'ai découvert ça et ça m'a intéressé. C'est rentré dans le...
Dans l'ADN des négresseurs, ouais, puisqu'il y a à peu près toutes ces musiques qui étaient en fusion, même si le terme est complètement galvaudé aujourd'hui. Un son aussi musical pour vous, Régis Ribe.
Thank you.
crois reconnaître, Régis Ribes, ce qu'on écoute.
Oui, Miles Davis.
Pour quelle raison vous avez choisi ce son? En quoi il vous a marqué?
J'ai été nourri de jazz par mon père, qui me faisait plutôt écouter Oscar Peterson. C'est jazz plutôt classique. Et puis quand j'ai grandi, quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai découvert Miles Davis. Et là, ça a été pour moi une véritable bouleversement émotionnel, artistique. Et,
Vous êtes mis à la trompette?
Non, j'ai essayé, mais c'était trop difficile.
Vous avez essayé quand même?
Oui, ouais, j'ai essayé.
Vous avez essayé d'autres instruments?
La guitare. Et je l'ai cassé, donc j'ai arrêté.
Oui, je crois qu'il valait mieux arrêter là. On va parler musique tout de suite avec Marion Guilbeault, ses invités, qui vont regagner le micro. C'est le live tout de suite dans le NRV.
Rendez-vous.
Ils sont en tournée un peu. Oh, attention, il y a du bruit derrière moi. C'est pas grave, vous avez le droit de vous accorder.
Oui, vous avez quand même le droit de vous
c'est
accorder.
C'est un peu petit bourgeois de s'accorder, mais vous avez le droit de le faire. Allez-y. Je pensais pas que les négresses vertes s'accordaient, moi.
Bah si, le temps a passé, maintenant ils s'accordent.
Un mythe est tombé, ça y est. Donc, vous êtes quasiment prêts. Bon, je disais, ils sont en tournée un peu partout en France, à Biarritz, à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille, Maastricht, Musilac, Sion, Monaco, Carcassonne. Ils étaient à l'Olympia à Paris, c'était archi complet, c'était génial, c'était le 1er février. Et là, ce soir, ils sont dans le NRV. C'est à vous.
Car on me trouve louche, ceux qui lisent la Bible en ouvrant la bouche sont de jolies cibles, des gobeurs de mouche. Hop dans mi, je fonds dans le gosier, je ne sors pas le trimer. Hop dans mi, je fonds dans le gosier, je ne sors pas le trimer. Zopi, zopi, la mouche. Zopi, zopi, la mouche. Zopi, zopi, la mouche. Faut pas se faire de bile. Je me fais pas bouffer. Je suis pas tant débile. De moi faut se méfier. Oui, dans les grandes villes, y'a guère de pitié. Mais je me faufile, on peut m'écraser. Je crache dans le vide, je fonds dans le soulier, je ressens pas les troupiers. Je crache dans le vide, je fonds dans le soulier, je ressens pas les troupiers. Zombie, zombie, la mouche. Zombie, zombie, la mouche. Zombie, zombie, la mouche. Zombie, zombie, la mouche.
Je me veux cette fille au sacré gonzesse. Elle est bien gentille, elle a les jolies fesses.
Comme toi.
Elle est nue, elle brille, quelle délicatesse. Si je la titille et qu'elle se confesse, je perds pas ma vie, je la prends de vitesse.
Je tape dans l'air,
je tape dans l'air.
Je tape dans l'air,
je tape dans l'air.
Zopi, zopi, la mouche. Zopi, zopi, la mouche. Zopi, zopi, la mouche.
Allez, encore une. Merci. Allez, encore une autre.
Attends. Pareil, on va se raccorder un petit peu quand même. C'est pour les auditeurs, hein, c'est pas trop pour nous, tu vois.
Vous êtes trop aimable.
Je
nuit, au milieu des marées. Mes papas sur ta route, les barques échouées, suis la sentence salée, des longs mouillés. La 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 la. Et nous aimerons sur le sang craquelé, allongé sur ses herbes, par le soleil brûlé. Quand grondera l'orage, ne sois pas effrayé, puisque nous sommes deux sur mon île isolée. La 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 la. Viens donc me retrouver dans ma cabane perdue au milieu des marais. Mes papas sur ta route, les barques échouées, suis la sentence salée, des longs mouillés. La 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 la. Et nous nous aimerons sur le sang craquelé, allongé sur ses herbes, par le soleil brûlé. Quand on a l'orage, ne sois pas effrayé, puisque nous sommes deux sur mon île isolée.
Génial, toujours génial, Négresse-Vert, 30 ans après Mla. Ils sont en tournée pour fêter
vous
les 30 ans.
Venez
de
nous
Mla.
Rejoindre au micro.
Et nous, on ne s'en lasse pas. Il y avait à la technique, à la prise de son ce soir, Kevin Pellot, Gilles Gaillard, Fabrice Desmaz. Et les lives des Négresses Vertes sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Et la vidéo, c'était Jacques Manquet.
Vous les aviez vus en concert, Fabienne Godet et Régis Ribes?
Non.
Ah ben, vous voyez
non, non. Non, je suis très contente.
30 ans plus tard, c'est parfait de retrouver ça. Et vous, Régis Ribes?
Non.
Alors même, quand même, vous parliez tout à l'heure de Farid Chopel, vous évoluiez dans le milieu artistique avant de devenir psychothérapeute?
Oui, j'étais assistant réalisateur. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans le long métrage. Et voilà, j'ai rencontré pas mal de... Il n'y avait pas un Crespin avec vous?
Si, Crespin, oui.
C'était le frère de Caro, moi j'étais très
le,
ami
non,
avec...
Ça, c'est, le frère de Caro, c'est...
C'est le père.
Non, le frère de Caro, c'est comment... C'est le cousin. C'est Olivier.
Oula,
c'est Olivier.
Ça rentre dans l'histoire de famille, ça va être compliqué.
Olivier Crespin. Ouais, donc, nous, on était avec Mathieu.
Bien même ce milieu-là, ouais.
Mathieu Crespin, son cousin.
Voilà, Mathieu.
Il faisait l'accordéon avec nous avant. C'était, ouais. Il a pas repris avec nous pour cette tournée.
Pour quelle raison?
Et il a fait autre pourquoi chose, Mathias. Il est parti à autre chose. Il a, voilà, c'est son droit de passer sur autre chose. Et puis, voilà.
Vous êtes tous restés en contact après toutes ces années?
Bah oui. On s'était pas vraiment séparés, nous. On s'était, c'était délité par avec le temps, quoi. On avait fait quand même 15 ou 16 ans en faisant plusieurs albums. Et puis arrivé à la quarantaine, voilà, on avait des envies et d'ailleurs et de fonder des familles, enfin des choses normales, quoi. Donc le groupe s'était un peu délité comme ça. Puis on est quand même resté actifs chacun de notre côté. On n'est pas vraiment dans la musique, dans le théâtre, la musique de film pour certains, voilà.
Marion. Justement, par rapport au théâtre, dans le coffret, il y a une présentation du groupe. Vous êtes, je crois, presque 8 à l'époque, ou 9 avec 9. Les chiens.
Je sais plus. Il est devenu quoi le chien? Je vous demanderai tout à l'heure.
Mais pareil, il a voulu vivre sa vie. En tout cas, il n'a pas voulu reprendre la tournée. Plus.
Avec Elno comme chanteur principal.
Elno qui est disparu.
Oui, en 93. Et on a l'impression que c'est presque plus une formation, quand je vois les photos, d'une formation de troupe de théâtre que de groupe de rock. Et je me demandais si c'était réfléchi déjà de cette façon-là à l'époque.
Réfléchi, non, peut-être pas, mais par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'on aurait pu aussi bien être une troupe de, une compagnie, une petite compagnie de théâtre, théâtre de rue, on aurait pu. Vu que bon, c'est la musique qui nous a bercé, on vient de là, c'est plus la musique que le théâtre. Donc, on a fait un groupe de rock. Mais, puis on est des autodidactes, donc, on s'interdit toujours pas d'ailleurs quoi que ce soit.
Tous un autodidacte. Elno aussi, le chanteur?
Oui, Elno, oui. Encore plus que les autres.
C'est pour ça que je posais cette question.
C'était l'autodidacte chef.
Ouais. En 1987, il faut dire que la France, quand vous commencez, elle est vraiment séparée. Enfin, il reste quoi? Il reste le rock alternatif, il y avait les Berruriers Noirs, la Mano Negra, vous êtes un peu issus de
oui,
cette mouvance-là.
Bien sûr, ouais.
Et sinon, on a quoi? On a au Top 50, on a Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman. On
c'était pas mal
cette
non plus,
musique-là.
c'est autre chose.
Voilà, ouais. Et vous arrivez avec des cuivres, avec un accordéon. Et je me demandais quelle vision de la musique vous vouliez transmettre, et peut-être même plus que de la musique, quelle vision de la France vous aviez, enfin de ce que vous aviez autour de vous.
Mais non, on s'est pas posé la question comme ça. Vu d'où là où on venait du mouvement alternatif, comme tu dis, tu vois, on est arrivé. Déjà pour nous, on s'est mis aux guitares sèches, aux instruments acoustiques, parce que pour nous c'était évident qu'on voulait jouer partout, tout le temps, pas avoir déjà la barrière de demander quelqu'un qui puisse nous fournir de l'électricité, quoi.
Ouais,
on était encore plus autonome, oui. Quoi. Ça a défini à la fois un son, le style aussi par la suite. Qui s'est affiné, mais on s'est pas dit la France, qu'est-ce qu'elle est à l'époque. En tout cas, nous, on était à l'époque, on avait tous la vingtaine, et c'était.
Vous étiez des Parisiens.
On s'est rencontrés à Paris. On avait vraiment envie de faire cette musique. Il y avait la poésie, comme je disais tout à l'heure, la poésie un peu nos futurs d'Elno qui orchestrait tout ça. On écrivait nous aussi des chansons. Enfin, c'était. On est le reflet d'une époque, mais on s'est jamais dit tiens, on va donner notre avis sur tel ou tel point de tel ou tel fait de société.
Politiquement, vous étiez de quel bord?
On est aucun bord, nous, on est tous les bords. Non,
quand même.
Non, franchement, politique. Moi, je veux pas en parler parce que moi, on a rien à gagner là-dedans, quoi.
Et Elno?
Elno, pareil. Enfin, je veux pas
surtout
parler pour lui.
À l'époque, on n'avait pas vraiment. On avait une conscience politique, mais enfin, on versait plus vers l'anarchisme que.
Bah oui, voilà. Il y avait le côté libertaire du rock.
Côté-là. Voilà.
Tout à fait.
Mais pas de politique, c'est.
Non, voilà. Vous n'étiez pas engagé derrière
on
un parti.
Parti.
Alors,
surtout pas.
Je vais faire comme dans une radio privée. Je vais demander un extrait de cet album Souvenir de 87-93, spécial dédicace pour Fabienne Godet.
Prenez un coup de pastèque.
C'est la maquette de la valse.
C'est la maquette.
C'est la maquette qu'on a passée. C'est la maquette de la valse. Ouais. La valse. Pourquoi vous aviez choisi cette chanson pour votre film à l'époque, Fabienne Godet?
Je suis super contente d'être là avec eux parce que j'ai écouté ça moi en boucle. J'adorais. Je suis jamais allée à des concerts, mais je sais pas. J'étais portée quoi. Et quand je les écoute là, ça me. Je trouve que c'est de la puissance de joie multipliée par 10, quoi. Donc, faudrait écouter ça tous les matins, comme ça nous met. Je trouve que ça met de la joie, quoi. Voilà. Et je trouve que ça fait du bien.
Oui, bah, surtout la démo, là, c'est vraiment excellent. On voit les conditions
démo,
de travail.
La démo, elle est terrible.
Mais les maquettes, elles sont dans ce coffret, là.
Dans ce coffret, voilà. Il y a les versions qu'on connaît.
Il y a aussi des inédits, il y a aussi des remixes. Les remixes sont incroyables. On en connaissait déjà certains. Et puis toutes ces maquettes avec cette mixité musicale, hein, où dans le coffret, vous citez La Villette, Saint-Ouen, Alger, Memphis, Séville. Et cette mixité musicale qui était aussi le reflet du Paris de l'époque. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Vous êtes toujours parisien? Vous vivez toujours tous les deux à Paris.
Ouais, région parisienne.
Qu'est-ce qui a changé dans votre quartier aujourd'hui? Est-ce qu'on retrouve encore cette mixité-là? Et
ce qui a beaucoup changé, c'est que nous, on a été obligés de s'éloigner parce qu'on n'avait pas les moyens d'habiter intramuros.
Ah, ouais. C'est ça qui a changé.
Ça,
ouais.
C'est un. Et deux,
donc
voilà.
Donc vous êtes basé à Saint-Cloud, hein, c'est ça?
Non, moi, je suis. Oui,
non, Neuilly-sur-Seine.
Ouais, ce qui a changé, c'est ça, je pense. Moi, je crois que. Voilà. L'image qu'on avait, nous, de Paris, enfin, ou de notre époque, c'est maintenant des gens qui vivent plus en banlieue que dans Paris même, quoi. Enfin, moi, c'est...
Ouais, Paris, c'était populaire encore à l'époque. Ouais. Il y avait encore des ouvriers qui vivaient dans Paris.
On allait chez Choupette, on était...
C'est quoi Choupette? Les deux curieux, les deux provinciaux.
C'est le nom d'un chat, mais c'est tout ce que c'est. Et chez Choupette, grande héritière.
C'était terrible chez Choupette. Chez Choupette, c'était un parquet, un bal. Ah. C'était un bal qui se trouvait rue du Général Guilhem. Dans le 11e, je crois.
Rue Saint-Maur.
Dans le 11e.
Vers la rue Saint-Maur. Et ça n'avait pas bougé. Nous, c'était devenu notre quartier général. Mais c'était un endroit, un lieu qui n'avait pas bougé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Ouais. Et Choupette, elle avait 80 ans. Elle était derrière son comptoir. Elle te faisait payer la bière 5 francs tant que la boule tango était éteinte. Une fois que la boule tango était allumée, c'était 10 francs.
Quelle femme d'affaires, Choupette.
Choupette était trop forte.
Marion, une dernière question.
Reformation donc des Négresses Vertes en 2017. 5 membres originaux avec quand même un nouveau batteur, un nouvel accordéoniste, Cisco.
Un nouveau chien aussi.
Un nouveau chien peut-être, je sais pas, Choupette, il s'appelle le chien, la chienne.
Tous les animaux devraient s'appeler Choupette, ils seraient très riches en ce moment.
Qu'est-ce que ça donne avec le public d'aujourd'hui, la rencontre Négresse Verte? Moi je vous ai vu, donc j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans les concerts de l'époque, mais avec ce public et tous leurs téléphones aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous évoque à vous?
Les jeunes, ils sont venus nous voir, déjà quand on a recommencé la tournée, c'était... Bon, la majorité des gens de notre génération, notre public de base. Et puis, on a eu l'été dernier, on a fait quand même pas mal de festivals. Et là, on a touché un public qui n'était pas venu nous voir, nous, quoi. Et on voyait des gamins et tout. Et puis, les gamins, ils ont dit une phrase, moi, que... Ils m'ont dit, ouais, c'est bien, vous jouez en vrai.
Voilà. Eh oui, pas derrière des machines.
Je pense que c'est une bonne phrase, quoi. On joue en vrai, il n'y a pas de son. T'arrives pas, tu mets pas une clé USB, quoi. Ou sinon, elle est vraiment dans une partie intime. Mais là, c'est crac, on arrive, on joue, quoi. Et tout le son qui vient de la scène, vient de notre fusion, quoi. De notre,
ouais. Mais c'est ce qu'on peut vérifier, j'imagine, voilà. En concert, en tournée, Marion
Biarritz, dès demain soir. Et puis Bordeaux, Montpellier, Marseille, Maastricht. Ça va être drôle, à Maastricht. Ouais. Musilac, Sion, Monaco, Carcassonne. Les Négresses Vertes sur la route. Hilger.
Le double album, c'est chez Because Music. Et puis, il n'y a pas que le double album.
Un super, super, super beau coffret pour tous les fans avec un DVD, des textes de Berroyer. Et des superbes photos, des photos magnifiques.
Vous restez avec nous, les Négresses Vertes. On va parler cinéma dans quelques instants.
Mes pupilles belles, des peaux mortes qui se perdent dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête sans que je le décèle. Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire. Dans la rigole, pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent, reviens me chercher. Prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert. Quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde tête menaçant, j'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. Je suis trempé à mon tour, plus aucun rempart. Tout explose, cette marée a que s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché?
Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, ça doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, ça doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire.
Présentement, le nouveau titre d'Aloïs Sauvage, la révélation des dernières transmusicales.
Je suis Daniel, 5 semaines clean.
Le nouveau rendez-vous.
Et je te souhaite la bienvenue.
Salomé, 19 jours clean, bienvenue.
Laurent Goumard.
Bonjour, moi c'est Sonia, 6 semaines de clean, bienvenue Margot.
Sur France Inter.
Laurent Goumard, bienvenue au NRV, Fabienne Godet et Régis Ribes. C'est un tout petit extrait de votre film, Fabienne Godet, qu'on vient d'entendre, Nos vies formidables, sorti en salle mercredi prochain, quand les patients de ce centre de désintoxication se présentent à la nouvelle arrivée, Margot, jouée par Julie Moulier, qui est aussi co-scénariste. Margot, je vous la laisse présenter. Situation familiale?
Issue d'un milieu un peu bourgeois, des parents pharmaciens, une mère qui fait pas grand-chose. Et puis elle a fait hypocaïne.
Mais elle n'a pas fait grand-chose de sa vie.
Et elle a pas consommé assez vite et ça l'a mis un peu par terre.
Type d'addiction?
De Margot?
Ouais.
En multi.
Tout.
Médicaments, cocaïne, tout quoi.
De votre côté? Addiction, des côtés des négresses vertes, il y en a eu hein, aussi. On connaît justement le sort tragique d'Elno, ouais.
Non, on s'est soigné là, on s'est calmé, oui.
Très bien. Donc Margot arrive dans ce centre de désintoxication où elle va vivre pendant quelques semaines avec Jérémy, Salomé, César, Sonia et vous, Régis Ribes, qui jouez votre propre rôle dans le film. Vous êtes thérapeute. Le film, c'est un portrait de groupe, une chronique de la reconstruction et plus encore, le chemin et le temps qu'il faut pour que la parole se libère, pour que Margot mette des mots sur ce qu'elle a vécu pour en arriver là. Secret de famille au programme, bande-annonce.
Tu viens d'où, Margot ?
Chalon.
Le téléphone, je le prends aussi. Tu pourras le récupérer dans 10 jours.
Tu commences à quelle heure?
Au réveil. Alcool, médoc, coke. Tous les jours.
Margot, essaie de nous dire ce qui se passe là, dans ton ventre.
Comment ça va?
C'est une question à la con. Moi, il m'a fallu 3 semaines pour me sentir bien. Reste. Pour aujourd'hui, demain tu verras. Ici c'est un jour à la fois. Tu dois surtout pas penser au lendemain.
J'y arriverai pas.
Moi j'y arriverai pas sans toi. J'ai besoin de toi.
On ne vous entend pas dans la bande-annonce, Régis Ribes, et pourtant on a besoin de vous dans ce film et dans la vie. Régis Ribes, vous êtes thérapeute, diplômé en addictologie. Vous avez hésité à jouer votre propre rôle?
Pas vraiment. J'avais envie. Je le disais pas à Fabienne, et le jour où elle m'a fait la proposition, j'ai fait le gars un peu étonné, et j'ai dit oui tout de suite.
Sans aucune réserve?
Pas de texte à apprendre.
Ah, c'était ça, pas de texte à apprendre. Vous êtes le roi de l'improvisation.
Je supporte pas d'apprendre du texte. Je supporte pas d'apprendre par cœur.
Ça vous gênait, Fabienne Godet?
Non, parce que le principe était justement de... Je voulais mettre en place un film sur le collectif, mais de manière collective.
Et ça, c'est ce qu'on dit généralement. Alors, comment ça se traduit? Parce qu'on nous dit toujours ça, c'est un travail d'équipe, c'est un collectif. Mais vous, vous aviez une méthode bien particulière.
Oui, parce qu'en fait, j'avais pas écrit vraiment de scénario. J'avais juste fait un traitement, qui est la phase juste avant le scénario. J'avais des bouts d'entretien que j'avais pris, donc des vrais gens que j'avais interviewés.
Dans des centres?
Oui, ou aux Narcotiques Anonymes. Après, c'est vrai qu'on, de fil en aiguille, en fait, les gens se refilaient mon téléphone et il y a plein de gens qui avaient envie, en fait, tout simplement de pouvoir témoigner de leur parcours. Et ils savaient que j'allais me servir de ces bouts de vie, en fait, pour les réinjecter sur des personnages. Donc, je confiais ces entretiens aux comédiens. Mmh. Et on a fonctionné un petit peu, nous, comme une troupe de théâtre. C'est-à-dire qu'on a mis en place une résidence 1 mois avant le tournage.
Et ah oui, ça c'est assez rare dans le cinéma.
Voilà, c'est impossible.
Ouais, non, trop
mais
cher.
Au théâtre, c'est vrai que ça se fait quasiment tout le temps. Et j'aurais proposé de, après leur avoir donné une fiche personnage sur le lieu du décor, ce qui était important. Ils avaient vraiment le temps de s'approprier le décor. Je leur ai proposé de s'entraîner à des groupes de thérapie, des groupes de parole, des récits de vie, ce qu'on appelle la sculpture familiale qu'on voit dans le film. Donc les comédiens, quand ils sont arrivés sur le tournage, ils étaient prêts, ils avaient compris comment ça fonctionnait. Et ils étaient prêts à partir d'un traitement qui était quand même très cadré, c'est-à-dire que les gens ne faisaient pas n'importe quoi. Mais ils avaient vraiment la liberté. Et là, Régis, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il était souvent... Il me disait, j'ai l'impression d'être dans un vrai groupe. C'est-à-dire que les comédiens sont tellement justes que j'ai l'impression d'être dans un vrai groupe. Donc, pour Régis, il fallait en fait qu'il lâche prise et qu'il fasse comme s'il était dans un vrai groupe et qu'il improvise.
Vous aviez vraiment l'impression que c'était un vrai groupe de, vraiment, de patients, ouais.
Vraiment.
C'est étrange.
Oublier
que c'était une fiction.
C'est ce qu'il fallait que je fasse pour être juste moi aussi, finalement. Que j'oublie Fabienne, la caméra, et ils étaient, comme le dit Fabienne, tellement justes, et on était tellement ensemble dans ce projet. On vivait ensemble, on dormait ensemble, on prenait les repas ensemble. Qu'à un moment, il y avait comme une espèce de, j'ai l'impression d'être dans une communauté thérapeutique, en vrai et en faux.
Communauté que vous connaissez bien, puisque en parlant de méthode, j'aimerais que vous précisiez, c'est quoi la méthode Minnesota ?
Alors, je vais essayer d'être rapide, parce que ça peut être très long aussi, mais la méthode Minnesota, il y a trois ou quatre concepts essentiels. La première considère que c'est l'addiction est une maladie chronique. La deuxième qui dit aussi que c'est une maladie plus spirituelle qu'une maladie mentale. C'est-à-dire que c'est la maladie de la perte des liens, de la perte des valeurs, de la perte de la dignité, et que pour retrouver la santé, il est nécessaire d'aller retrouver sa dignité et son amour propre. Une des particularités de ce modèle aussi, c'est que toutes les personnes qui interviennent dans le lieu ont toutes été touchées par le problème.
Comme vous, d'ailleurs.
Voilà. Et ont eu un certain nombre d'années d'arrêt du produit, d'abstinence et ensuite de formation, d'une longue formation qui nous permet de devenir à notre tour
des thérapeutes. C'est ça qui vous a intéressé, Fabienne Godet, parce que vous aussi, vous avez un passé de psychosociologue. Ça n'a pas véritablement de rapport, non. Mais quand même, vous n'êtes pas très loin de comprendre les enjeux qui peuvent exister dans un
ma formation, en fait, elle me sert surtout à écouter, à savoir me taire et à observer. Et donc, quand on est dans un lieu en immersion, ou même dans les narcotiques anonymes, où moi, je prenais pas la parole, et je prenais même pas de notes, je rentrais chez moi, je prenais tout de suite des notes. Donc, ça me sert à ça, en fait, à avoir la capacité à me mettre en retrait. Mais ce qui m'intéressait, moi, quand je suis allée d'abord aux narcotiques anonymes, c'est cette fraternité que j'ai sentie vraiment très très forte et que j'ai essayé de restituer justement dans l'équipe de tournage. Parce que contrairement à ce qu'on pense, une équipe de tournage, c'est pas toujours très sympathique et c'est très hiérarchisé. Et là, j'avais vraiment envie que la communauté, ce qu'on allait mettre nous ensemble, comédiens, techniciens, ressemble à ce que j'avais pu voir en fait. On avait par exemple, c'est un détail, mais ce n'est pas qu'un détail, on était tous payés pareil, du réalisateur.
Peux vous dire que dans le milieu du cinéma, en effet, c'est plutôt une exception.
Aux stagiaires. Ouais. Et on a eu la
chance.
C'est
super pour les stagiaires. Enfin, ça dépend du salaire.
Mais cette liberté, on l'a eue grâce au producteur Bertrand Fèvre, qui a financé le film avec sa carte bleue. On n'a pas demandé de financement, on savait qu'on n'en aurait pas. Puisque je voulais pas aller. Je voulais avoir. En fait, c'est une liberté que m'a été donnée vraiment par mon producteur, puisque j'avais pas de scénario. Donc on pouvait pas aller chercher d'argent. Puisqu'en France, il faut forcément montrer passe blanche, puis surtout avoir des têtes d'affiche.
Mais vous en aviez dans les films précédents.
Poulvord. Ouais. Mais voilà, Une place sur la terre, c'est Une place sur la terre. Et
c'était le film précédent, ouais.
Voilà, c'est le film précédent. Là, j'avais envie de travailler avec des acteurs pas connus ou peu connus, parce que certains le sont un peu, que chacun puisse s'identifier. Et puis surtout parce que en France, il y a des acteurs, vous les regardez, et c'est tous des immenses acteurs de théâtre, certains qui sont, il y a beaucoup de chanteurs en fait. Il y a le chanteur par exemple de La Rue qui est à nous, qui c'était son premier rôle au cinéma.
Bon. Et...
Non, Mourad.
Mourad.
Voilà. Et Mourad, il était heureux comme un môme parce que c'était son premier contrat de cinéma qui signait. Et c'est grâce à lui d'ailleurs, et notamment tous les autres, Emily March qui est aussi musicienne. En fait, ils sont tous musiciens quasiment. Et c'est eux qui ont composé la chanson Solidarité.
La chanson qu'on entend aussi sur le générique.
Ils ont composé paroles et musique.
Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que c'est une femme qui est au centre du film. C'est pas ça qui m'a étonné, mais j'ai lu que vous aviez changé les règles, que généralement, vous dites, vous avez l'habitude d'écrire d'abord au masculin et ensuite de basculer au féminin pour éviter les stéréotypes.
Ça, c'est mon passé avec Kung Fu, je pense. Non, non, mais c'est vrai. Ben, je me suis.
Très bien gaulé.
Ben, en fait, par exemple, Kung Fu, je suis jamais tombée amoureuse de David Carradine. Je me suis toujours identifiée à lui. Donc, non, je plaisante, mais c'est très difficile de pas tomber dans des stéréotypes malgré soi. Et spontanément, je sais pas pourquoi, j'écris au masculin. Et très souvent, je bascule au dernier moment au féminin, parce que je trouve que c'est intéressant. À un moment donné, on se rend compte en fait qu'on est beaucoup plus enchaîné qu'on ne le croit à des comportements et il y a des choses que je ne ferais peut-être pas faire spontanément à une femme, alors que dans la vie, bah, bien sûr que oui, on est capable de tout faire.
Régis Ribes, qu'est-ce que vous avez vécu vous sur ce plateau de cinéma en fait ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Vous-même qui travaillez avant, alors c'est quand même de voir que la vie a des circonstances complètement folles, puisque vous disiez tout à l'heure que vous étiez assistant réalisateur avant même d'être thérapeute.
Ce qui m'a intéressé, c'est ce qui m'a toujours intéressé dans ma vie, c'est les aventures et les rencontres. Et là, c'était une aventure extraordinaire, puisque c'était une aventure dans laquelle se rejouaient trois pans de ma vie. C'est-à-dire ma vie de patient, ma vie de patient... j'ai dit ma vie de patient.
Comme oui. Donc, vous avez commencé par ça, oui. Vous avez des beaux lapsus, hein. C'est ouais, même pas des lapsus, ouais. C'est la vérité.
Double patient. Donc ma vie de patient, ma vie de thérapeute et ma vie d'assistant metteur en scène. Et tout ça autour d'une vie dans ce château pendant un mois et quelques.
C'est le décor hein, de ce centre de désintoxication.
Où tout cela s'entremêlait. Et c'est ça, moi, qui m'a.
Pourquoi avoir abandonné le cinéma ?
J'ai voulu reprendre quand je suis sorti de cure. J'ai voulu reprendre. Je suis parti sur des repérages pour un film et tout ça. Et au bout de trois jours, j'ai appelé le réalisateur. J'ai dit j'arrête. Donc j'ai repris le cinéma par un autre bout de la lorgnette. C'est-à-dire que j'ai enseigné pendant trois ans dans un institut de cinéma et ça me passionnait pas vraiment. J'avais envie de retourner travailler dans le centre dans lequel j'avais été soigné. Ça, je voulais être jardinier au départ quand j'étais là-bas. Puis petit à petit, de jardinier, je me suis dit peut-être je pourrais. Et un jour, j'étais dans les embouteillages, j'allais donner mes cours, je n'en pouvais plus, et j'ai appelé la chef de service et je lui ai dit voilà, est-ce qu'il y a possibilité que je vienne travailler avec vous ? Et elle m'a dit mais c'est une formidable idée, c'est une australienne.
Et depuis, vous êtes devenue thérapeute. Et vous, avec une formation de psychosociologue, comment vous êtes arrivée au cinéma, Fabienne Godet ?
J'ai toujours mené en fait en parallèle les deux.
Ah oui, d'accord.
Ouais. J'ai fait le conservatoire, mais là, comme comédienne, conservatoire d'Angers. Je faisais un peu de danse. Je faisais, en fait, voilà, j'ai toujours fait les deux. Je faisais tous les stages de cinéma. J'allais beaucoup au cinéma. Et quand j'ai eu mon diplôme de psycho, je suis partie tout de suite à Jussieu faire une licence de cinéma. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Claude Brissot.
Ah, qui lui, formidable réalisateur.
Qui lui m'a dit, en fait, je lui ai demandé conseil. Il m'a dit, mais si tu veux faire des films, vas-y. N'attends pas d'être réalisateur, n'attends rien. Et puis c'est ta volonté qui fera le reste. Et j'ai l'écouté et du coup j'ai monté un premier film, puis un deuxième, puis un troisième et en fait voilà.
Jusqu'au quatrième long métrage voilà. Qui sortira en salle mercredi prochain. Nos vies formidables, merci à vous deux. Merci les Négresses Vertes. Tout de suite, le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal avec ça.
Si populisme signifie être capable d'écouter les besoins des personnes, alors nous le revendiquons.
On va parler d'Italie, mais quelle est sa botte secrète ? Mais avant de retrouver le journal, je vous rappelle que vous avez jusqu'à mercredi prochain pour envoyer vos candidatures pour faire partie du jury du livre France Inter par courrier au 75 220 Paris Cedex 16 ou directement sur le site franceinter.fr. Le rendez-vous est pris pour l'Italie ? Alors à tout de suite.